Vous l'attendez, vous trépignez. Le mardi, dans la deuxième partie de l'EM, on vous propose le plateau des marottes, les sujets qu'on aime, qu'on veut partager avec vous. Il y a aussi des idées de sortie dans le Finistère. Et aujourd'hui, au micro, eh bien, nous ne sommes pas nombreux, car il y a Christophe Casazza qui mélange cinéma et cuisine. Et puis, il y a moi qui vous proposerai un rendez-vous d'histoire à Landévennec. Mais puisqu'on était à table dans la première partie de l'émission, on y reste. Bonjour Christophe.
Bonjour.
On va commencer avec ton menu cinéma qui est composé de nouveautés mais avec une actrice fil rouge, c'est ça ?
Oui, Julia Piatto. On la voit partout, elle a du talent, pour preuve 3 films à l'affiche en mai, ce qui est assez rare pour être noté, des séries, des téléfilms et pas mal de replays. Alors j'ai eu envie de vous proposer un menu spécial pour elle. Voilà. C'est la fille de Jean-Marc Piaton.
Ça, qui est-ce ?
Non, et c'est surtout celle de... Enfin, pas, c'est surtout d'ailleurs, c'est celle de Charlotte de Turckheim. Ça, c'est pour mon petit côté gala.
Ah, c'est ça !
Voilà, alors moi, je dis toujours, je précise le père aussi, qu'on ne cite jamais. Voilà.
Oui, mais je me disais bien qu'elle ressemblait à quelqu'un, qu'elle me faisait penser à quelqu'un. C'est une jolie rousse avec un visage assez particulier, assez caractérisé, quoi.
On la prend souvent pour Camille Cotin.
Exactement, voilà. C'est vrai qu'elle se ressemble.
Beaucoup, donc. Voilà. Mais bon. Elle est complètement différente, oui. Elle a autant de talent.
Oui, tout à fait. Trois nouveautés en mai.
Oui, en amuse-bouche, je vous propose une pointe d'amour. C'est de Maëlle Piriou. Mélanie, Julia Piatton, avocate péchue mais avec un timing de vie limité, décide avant le clap de fin de mettre le paquet sur le plaisir. Sur sa to-do list, un seul délire, faire un road trip caliente en Espagne. Pour son périple, elle embarque Benjamin, Quentin Dolmer, son pote de toujours, lui aussi abonné aux galères de santé. Leur bolide, pour cette aventure, un van qui a probablement connu l'âge d'or des Spice Girls et qui menace de se désagréger, à chaque dodane. Au volant, on trouve Lucas, le toujours impeccable Grégory Gadebois, tout juste sorti de prison. Il est aussi loquace qu'une moule. Autant dire que l'ambiance dans le van est électrique. Un peu comme un grippin branché sur du 380 volts. Une pointe d'amour, c'est le road trip le plus déjanté de l'année, avec un GPS émotionnel complètement déréglé et une sacrée envie de rire des tribulations d'un trio follement attachant.
Et donc ça sort début mai.
Ça va sortir, je crois que ça sortait cette semaine, je pense. Voilà.
Très bien.
En plein de résistance, je vous sers une bonne tranche des Les règles de l'art, le nouveau film de Dominique Bommard. Jonathan Melville-Poupeau, expert en montres de luxe dans la vie, est aussi excitante qu'un remontoir cassé, voit son quotidien soudainement pimenté lorsqu'il s'accoquine avec Eric, Sofiane Zermani, un genre de VRP de la combine et collectionneur de biens mal acquis, ne profite jamais, bien sûr. Avec lui, Jonathan, je dis bien Jonathan, c'est pas Jonathan, c'est Jonathan, perd toute notion de l'heure et de la morale. La situation se corse comme un bracelet de montre trop serré quand, pour le compte d'Eric, un certain Joe, Steve Tiencheux, dérobe 5 chefs-d'œuvre au musée d'art moderne de Paris. C'est tiré d'une histoire vraie. Hein.
Ah ouais.
Si l'on ajoute à cela une Julia Piatton, la femme de Jonathan, dont les interventions imprévues viennent gripper les rouages de leur plan foireux, on se retrouve, imaginez un peu le tableau, dans une amusante comédie policière. Hein.
Pareil, sortie en mai.
Sortie en mai. Voilà, même je crois que ça sort aussi là
aussi.
Maintenant.
Très bien.
Pour le dessert, je vous suggère La Venue de l'Avenir. Ça, c'est sorti en mai, un peu plus tard. Le dernier film de Cédric Clapiche, au casting toujours Julia Piatton, entre autres. Imaginez une joyeuse tribu de cousins qui hérite d'une vieille bicoque oubliée. On envoie 4 experts sur place pour visiter les lieux. Nos 4 fantastiques débarquent dans cette maison où le temps s'est arrêté en 1978. Si on en croit le papier peint psychédélique et la collection de cassettes de Demis Roussos, en tout cas. Mais, surprise, en grattant un peu le vernis, vintage, il tombe sur des reliques d'une autre époque, des indices laissés par une certaine Adèle, une ancêtre partie de sa Normandie en 1895 pour aller goûter aux joies de la Révolution parisienne et probablement de l'absinthe bien tassée. Ça, voilà. Pour nos 4 cousins, c'est le début d'une enquête généalogique à travers le temps. Le choc des époques est aussi agressif qu'un débat sur le vin nature à un repas de soulard. Bref, L'Avenue de l'Avenir, c'est un joyeux bordel temporel où le passé vient chatouiller le présent. On finit par se demander si, finalement, l'avenir, c'était pas mieux avant. Je vous laisse méditer sur cette petite pensée.
Donc ça, c'était le Cédric Clapiche à venir, donc.
À venir.
Avec Julia Piatton, encore.
Toujours. Et toujours avec Julia Piatton, pour la séance ciné-bouffe. Accrochez-vous, ça va pétiller comme un cidre de Cornouaille, bien frais. Vous l'avez tous vu, ou en tout cas,
oui.
Allez le voir. C'est les petites victoires. Ça a été tourné au jus, en plus.
C'est
donc
ça.
C'est vraiment,
Made in Bretagne.
Mais totalement breton.
Pur beurre.
C'est l'histoire d'Alice, campée avec une énergie folle par Julia Piatton, une institutrice de primaire et mère d'un charmant petit village breton. breton, digne d'Astérix, en l'occurrence, on l'avait dit, c'est le Juc. Son nouveau challenge, l'arrivée dans la classe d'un certain Émile, joué par un bougonneur, avec une bougonnerie, pardon, oh là là. Ah, je vais faire zen. Joué avec une bougonnerie attendrissante par le formidable Michel Blanc. Toujours au top de sa mauvaise foi attachante. Émile, c'est le papy du coin, un retraité bourru depuis que son frère est mort, a décidé de retourner à l'école primaire pour apprendre à lire.
Oui, parce qu'il ne sait plus lire.
Il ne sait pas lire, c'est son frère qui faisait tout pour lui. Sous la caméra malicieuse de Maline Offray, qui a visiblement un faible pour les Bretons et les situations cocasses.
Mais elle est bretonne, de toute façon, Offray, c'est vraiment un breton comme nom.
Et oui, c'est un vrai nom breton. Quoi. On assiste alors à une feel-good movie, breton, pur beurre salé, où l'humour et la tendresse s'entremêlent, comme les algues sur les rochers de la côte. C'est joli, non ? Vous en ressortirez avec le sourire et l'envie de retourner sur les bancs de l'école. Enfin, presque. Dans la salle qui nous intéresse, Émile Menoux attend Alice, Julia Piéton, à la sortie de l'école. Comme il est le seul pour le réveillon, il aimerait bien se faire inviter. Et là, il va y arriver, le bougon.
Vous faites quoi pour Noël, vous ?
J'ai ma sœur qui s'est invitée, avec toute sa famille.
Ouais. Vous avez de la chance. Moi, je serai tout seul, soir de Noël. Quand Christian était encore là, je nous préparais un bon gueuleton. Je faisais moi-même le boudin, c'est ma mère qui m'avait appris. On adorait ça. Puis cette année, bon, je pense que je mangerai une soupe et puis hop.
On avait dit pas de chantage affectif, Émile, hein ?
Oh ben non. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. On se fait à tout, ce qui paraît.
Mange un petit peu.
Je te mets 4 petits morceaux de pommes et puis pas obligé de manger la salade.
Tiens. C'est délicieux, franchement c'est délicieux. Et c'est la texture.
Et c'est du boudin maison, hein.
Mais c'est délicieux, quoi. C'est, elle est plus douce que d'habitude.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est mon petit secret. Quand les oignons sont encore chauds, je rajoute toujours un peu de crème avec le sang.
Ouais.
Comme ça.
Maman, il y a du sang dans le boudin.
Oh, mais non, ma chérie, c'est juste une manière de parler, ça.
Ah non, c'est pas une manière de parler, non. Quand je t'enfile 3 litres de sang bouilli dans le boyau de porc et que ça me dégueulasse toute la cuisine, croyez-moi, c'est pas juste une image. Hein.
J'en veux plus.
J'en veux plus, bah donne à papa.
Mais si.
Ça, c'est délicieux, cette texture.
Encore un petit peu. Non, t'es sûr?
Bah, tu vas être contente, plus j'ai fait du chapon.
Ah, moi j'adore le chapon, ça fait vachement bon. Tu sais ce qu'on leur fait au chapon quand ils sont bébés?
Non. Et dis-moi, Rudy, ça se passe bien ton boulot ?
Ah ouais. Tu sais, toujours aussi trépidant. Mon stabilo, tableur, facture, stabilo, tableur, facture. Je suis pas comme toi, moi. Je sais pas toujours pourquoi je me lève le matin.
Oh merde ! On peut même pas être tranquille le soir de Noël.
Émile.
Il a dit un gros mot.
Vous avez compris, la recette du jour, c'est le boudin.
Noir. Boudin noir par Michel Blanc.
Oh, joli. Ouais. Oh, bravo, bravo. Non.
Oui, parce que j'aime bien le boudin blanc aussi, mais c'est pas pareil.
Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est boudin noir aux deux pommes. Donc ça, j'ai un peu aménagé cette petite recette. Pour la purée de pommes de terre, on fait cuire 1 kg de pommes de terre à chair ferme, à l'eau bouillante, avec 2 étoiles de badiane et une belle pincée de gingembre. Quand elles sont cuites, vous les égouttez, vous les remettez sur le feu, vous les égrassez au fouet en ajoutant 50 g de beurre, 10 centilitres de lait, du sel, du poivre, puis hors du feu, un bouquet de ciboulette ciselée. Voilà. Ensuite, on passe à la partie boudin et pommes. Vous coupez 4 pommes en petits cubes, vous les faites revenir dans un petit beurre mousseux avec 2 étoiles de badiane et toujours une petite pincée de gingembre en poudre. Quand les pommes ont une jolie coloration dorée, vous ajoutez des tranches de boudin et vous faites cuire le
tout.
Des
tranches de boudin.
On coupe le boudin en tranches, on le met dedans, mais il faut bien le couper assez large de façon à garder la structure. Quand
des bons tronçons.
Voilà, des bons petits tronçons. Et vous faites cuire le tout en mélangeant délicatement. Vous salez, vous poivrez. Hop, à l'aide d'un pinceau, vous décorez l'assiette avec du piment d'Espelette en poudre que vous avez fait tremper dans un peu d'huile d'olive. C'est plus joli, c'est délicat. Vous n'avez plus qu'à y déposer la compotée de boudin aux pommes et l'écrasé de pommes de terre. Vous servez en regardant le film en replay sur France 2. Bon appétit, bon film et que la gourmandise soit avec vous.
Et merci Christophe.
Bah de rien.
Et on a beaucoup mangé dans cette émission et donc on va s'orienter à présent vers les nourritures de l'esprit comme on dit. Est-ce que tu connais le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec ?
Bah oui.
Tu vas pouvoir y retourner le week-end prochain.
Super.
Chaque année le musée propose ce qui s'appelle les rendez-vous d'histoire, c'est toujours au mois de mai. Bon là c'est bientôt, c'est les 10 et 11 mai et c'est même un peu avant parce qu'il y a une vedette cette année, un manuscrit du Moyen-Âge et c'est Guénolé Ridou, l'un des médiateurs du musée qui va nous expliquer l'importance de cet objet.
Le manuscrit de Maria, c'est un manuscrit qui a été acheté l'année dernière par plusieurs collectivités bretonnes et avec l'aide de l'État, et qui est rentré en fait tout récemment dans la collection de la bibliothèque des Champs Libres à Rennes. Donc c'est une acquisition qui est assez exceptionnelle, parce que c'est très rare de pouvoir acquérir des manuscrits bretons qui s'en trouvent sur le marché. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce manuscrit? En fait, c'est un manuscrit qui a été... Donc d'abord, ce qu'il est particulier, c'est qu'il est attribué à l'abbaye de Locmaria, donc à côté de Quimper. Et ce qui permet de dire ça, donc c'est des travaux, notamment de Cyprien Henry, qui est archiviste paléographe, qui a été voir le manuscrit à Copenhague, quand il se trouvait encore à l'étranger, donc, et qui a réussi à trouver des indices qui permettaient de l'attribuer à cette bibliothèque de l'abbaye de Locmaria. L'abbaye de Locmaria, c'est une abbaye de femmes, donc ça c'est intéressant aussi, que ce manuscrit ait été possédé par une abbaye de femmes, et c'est le seul en fait qu'on connaisse hein, pour cette période-là de cette bibliothèque. Et en fait, il contient un commentaire de l'évangile de Marc par Bède le Vénérable. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais il faut bien s'imaginer que c'est un texte pédagogique, en quelque sorte, dans ce cas, c'est un texte très explicite. C'est vraiment un manuscrit de base d'une bibliothèque monastique de cette période-là.
Et c'est sans doute à Landévennec qu'il a été écrit.
Alors, c'est une des hypothèses pour la provenance du manuscrit. En fait, on n'est pas très sûr de savoir dans quel monastère il a été écrit. En fait, ce dont on est sûr, donc ça c'est vraiment les travaux de Cyprien Henry, c'est qu'il a été écrit en Cornouailles. Alors, ce qu'on sait, en fait, c'est d'abord la texture du parchemin, parce qu'en fait, oui, ce texte-là, en fait, le commentaire de l'évangile de Marc, il est présent dans plusieurs manuscrits. Donc, c'est pas toujours évident de savoir où le manuscrit a été recopié. En fait, le texte est le même. Et donc, du coup, il faut regarder vraiment la forme et la nature du manuscrit. Donc, du coup, ce qu'a regardé Cyprien Henry, d'abord, c'est le fait qu'on a une mention, une inscription à la fin qui nous dit que le manuscrit vient du Saint-Lieu de Sainte-Marie, donc on pourrait identifier à la bibliothèque de Maria. Et puis ensuite, on a des petites manières de copier les lettres qui évoquent en fait l'écriture bretonne, et en particulier la manière d'écrire des moines bretons de l'ouest de la Bretagne et donc de Cornouailles. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Et après, d'où est-ce qu'il vient précisément? Alors, ça pourrait être de Landévennec. Le problème, c'est que le parchemin qui est utilisé, c'est pas tout à fait le même que celui qu'on a, par exemple, sur le manuscrit, sur le cartulaire de Landévennec, qui date à peu près de la même époque et qui, lui, est copié à Landévennec. Donc, c'est pas tout à fait sûr. Par contre, ça ressemble pas mal à ce qu'on a, par exemple, à l'abbaye de Quimperlé, donc cartulaire de Quimperlé, justement. Et donc, du coup, bon, voilà. En fait, on a un peu plus, plutôt une idée d'une géographie plutôt que de la provenance exacte. Mais, Peut-être qu'il a été produit à Landévennec, et peut-être aussi qu'il a été produit carrément à Locmaria par les moniales de Locmaria, et là, ce serait vraiment exceptionnel.
D'ailleurs, on pourra le voir aussi à Quimper. À Landévennec, il y a des conférences qui sont organisées autour de ce document.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le samedi 10 mai, donc à 15h, on a une présentation donc de Cyprien Henry et de Julien Bachelier. Julien Bachelier, il a dirigé une publication sur le manuscrit de Locmaria et sur les manuscrits bretons de cette période-là. Et donc, ils ont tous les deux contribué à cette publication. Et donc, en fait, l'idée là, c'est de raconter un peu, parce qu'ils ont été très impliqués, Julien Bachelier et Cyprien Henry, dans l'acquisition du manuscrit. C'est-à-dire qu'en fait, il est passé en vente publique l'année dernière. Donc, ça venait au départ d'une collection privée en Norvège. Ça a été une mise en vente aux enchères à Londres. Donc, ils vont raconter un peu comment est-ce qu'ils ont eu connaissance du manuscrit, comment est-ce qu'ils ont réussi à identifier sa provenance et à être sûr qu'il venait de l'abbaye de Locmaria. Et puis ensuite, comment ils ont mobilisé les financeurs et comment tout ça s'est passé. Donc il va y avoir cette histoire qui sera racontée. En même temps, ce sera aussi l'occasion de raconter un peu le contexte intellectuel justement dans lequel ce manuscrit est produit. Donc la fondation de l'abbaye de Locmaria au milieu du XIe siècle, mais aussi toute la production intellectuelle en Bretagne à cette période-là, production intellectuelle à laquelle contribue largement l'abbaye de Landévennec. Donc c'est un peu cette histoire-là qui sera racontée donc le samedi 10 mai à 15h à la salle polyvalente de Landévennec, et c'est gratuit.
Donc on va pouvoir voir ce manuscrit dès le 7 mai au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, et aussi à l'occasion des rendez-vous de l'histoire qui ont lieu chaque année. Là, c'est Gwendal Glohagen qui nous présente le programme des rendez-vous de l'histoire.
Alors, au cours des deux jours, il y aura en permanence des animations autour de la taille de pierre, autour de l'enluminure, la création des livres. C'est un moyen de faire dialoguer à la fois l'architecture et le manuscrit, puisqu'on sait qu'à Landévennec, il y a vraiment un lien entre la production écrite, dessinée et l'architecture, au sens des chapiteaux sculptés du grand chantier roman, un chantier qui est quasiment contemporain, un petit peu plus ancien que le manuscrit de Locmaria. Mais on voit vraiment des parallèles dans la décoration avec des motifs floraux, des personnages qui sont perdus dans des entrelacs floraux, des choses qu'on retrouve dans les manuscrits. On aura aussi une présentation de forge pour bien comprendre que la forge, eh bien, c'est quelque chose de très important sur un chantier médiéval, avec un forgeron qui va justement refaire des outils pour le tailleur de pierre. Et on aura aussi des animations autour de l'enluminure, la création de pigments, comment on fait de la peinture, des couleurs au Moyen-Âge. Il y aura aussi un calligraphe qui présentera les techniques de calligraphie médiévale. Et pendant les deux jours, dans les ruines de l'église, il y aura aussi l'association de reconstitution historique Letavia, qui présentera différents aspects de la vie quotidienne du XIe siècle. Donc la vie seigneuriale, la vie paysanne, autour d'animations, de combats, de teintures, d'artisanats divers.
Et on pourra voir l'exposition aussi, elle sera à nouveau ouverte.
Et l'exposition sera ouverte, donc une exposition sur les non-humains, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un moine, en gros tout ce qui n'est pas un humain dans l'abbaye. Une abbaye, c'est pas que des moines, c'est aussi tout un univers de roches, de bois, d'animaux. Et grâce aux fouilles qui ont été faites ici entre 1978 et 2002, on a énormément de documentation, une documentation qu'on présente dans cette exposition. Donc après, il faut bien s'attendre à un petit échantillon de ce qui a été découvert. On a plus de 50 000 objets dans les collections. Donc voilà, un petit panorama de ce qui a pu être découvert.
Alors le manuscrit de Locmaria sera aussi exposé au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, donc les 10 et 11 mai, à l'occasion de ces rendez-vous de l'histoire. Puis à la médiathèque Alain Gérard de Quimper, là cette fois ce sera vendredi 16 mai de midi à 19h et samedi 17 mai de 10h à 18h. Et à la médiathèque, il y aura aussi des animations autour de cette exposition, comme des visites des coulisses de la médiathèque. Toutes les heures, une découverte flash dans la bibliothèque de Cornouailles pour en apprendre davantage sur ce manuscrit. Il y aura aussi une conférence sur les manuscrits du Moyen-Âge en Bretagne et sur la place du manuscrit de Locmaria. Ce sera Sarah Toulouse, qui est conservatrice responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque des Champs Libres de Rennes, qui la donnera le samedi 17 mai à 16h. Et puis l'aventure de la recherche du manuscrit de Locmaria, là c'est Julien Bachelier, qui est maître de conférences en histoire médiévale, professeur agrégé à l'Université Bretagne Occidentale et au Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Et lui donnera cette conférence le samedi 17 mai toujours, mais à 17h. Et je précise que Julien Bachelier sera l'invité de la première partie de l'EM le lundi 12 mai. Allez, on termine avec un petit mot d'un de nos partenaires et même davantage, à savoir la Maison qui Pousse. La Maison qui Pousse, c'est la librairie Maison de la Presse coopérative de Châteaulin. Et donc voici les prochaines actualités. Il y a toujours une mise en vitrine, vous savez, dans cette boutique. Et en ce moment, on peut voir des aquarelles et des carnets de voyage de Sophie Bonneau, c'est jusqu'à vendredi. Et puis ensuite, on pourra voir l'écrivain Daniel Cario et Jean-Luc Feillant qui auront droit à leur vitrine du 17 mai au 24 mai. Sachez aussi qu'il existe un cercle de lecture auquel tout le monde peut participer. Il s'agit juste de discuter de ses lectures, de partager ses coups de cœur. Et la prochaine réunion du cercle de lecture de la Maison qui Pousse a lieu le dimanche 11 mai de 15h à 17h chez Vincent Truel, qui est l'un des coopérateurs les plus actifs de la Maison qui Pousse. Vous appelez la Maison qui Pousse qui vous donnera son adresse. Il y a aussi une partie bouquinerie dans la librairie et pour cette partie bouquinerie, on collecte des livres d'occasion en très bon état. La prochaine collecte a lieu le 10 mai et le 24 mai à 14h30. Il y aura aussi une séance de dédicace avec l'auteur Daniel Cario, justement. Là, ce sera le 24 mai à 9h. Il est l'auteur de La Vengeance du Crapaud aux éditions Presse de la Cité et Le Passager de l'Aube aux éditions Palémon. Et puis son dernier, paru en mars, c'est Les Filles de la Châtelaine chez Palémon également. Et le LEM sera réalisé en direct de la boutique à Châteaulin et sur les ondes de Transistor. Ce sera le 26 mai à midi en direct et en rediffusion à 18h. Et pour un peu plus tard, vous pouvez noter aussi que que le média indépendant d'investigation bretonne Splan va venir fêter ses 5 ans à la maison qui pousse, avec la maison qui pousse, mais au Runner Pince, donc toujours à Châteaulin. Et là, ce sera le samedi 28 juin et on vous détaillera le programme plus tard. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à toutes et tous de votre écoute. Merci Christophe.
Merci.
Ta marotte. Tu reviens bientôt.
Oui, hein, bien sûr.
Et les marottes du mardi en deuxième partie de l'EM, il y en a chaque semaine, hein, une nouvelle goulée. Dans l'EM de mercredi, c'est Tristan Legros qui présente et il vous expliquera ce qu'est le pop-fascisme. Vous verrez.